Adia Chipoukou est à la présentation.
Au sommaire de cette édition, situation toujours tendue à Rutshuru dans le Nord Kivu. Hier lundi, des combats ont opposé les soldats de l'armée régulière aux éléments dissidents de la 83e brigade à Kibirizi, une localité contrôlée depuis dimanche soir par ces forces négatives. Des localités de la plaine de la Ruzizi au sud Kivu frappées par la sécheresse, plus d'une cinquantaine de familles se sont déjà réfugiées au Burundi en l'espace de 2 mois parce que les champs ont séché. Tableau de cette sécheresse dans ce journal. Nous irons également dans la Chuapa en Équateur où certains agents électoraux utilisés par la CEI lors du référendum sont inquiets de ne pas être retenus pour la suite du processus. Selon eux, le chef de bureau de liaison leur exige de l'argent pour être retenu, accusation que ce dernier rejette. Bonjour, l'actualité est toujours dominée par ces combats depuis hier lundi dans le territoire de Rutshuru. Ils opposent les soldats de l'armée régulière aux éléments dissidents de la 83e brigade. Ces accrochages ont eu lieu d'abord à Kibirizi, localité contrôlée depuis dimanche soir par des militaires dissidents. D'autres combats ont eu lieu toujours ce même lundi dans la localité de la Ruindi, à 75 km au nord de Rutshuru. Ce village tombé aux mains des dissidents pendant quelques heures a été repris par la suite par les forces loyalistes appuyées par le contingent indien de la MONUC. Plus de précisions dans ce reportage signé Jean-Paul Bassila.
Lundi matin, des officiers de la 8e région militaire qui ne veulent pas être cités ont reconnu la prise de la localité de Kibirizi à environ 100 km des Rutshuru, dimanche dans la nuit par des militaires dissidents. Les mêmes officiers ont signalé des combats encore lundi entre le 51e bataillon intégré et les forces dissidentes dans la localité de la Ruindi, à 75 km toujours au nord des Rutshuru. Dans cette localité, les soldats du bataillon intégré auraient été délogés puis réhabilités dans leur position grâce à l'appui des hélicoptères des combats de la MONUC. Des informations confirmées par les commandements militaires de la 5e brigade intégrée. Pendant ces temps, de nombreux civils en provenance des Rutshuru arrivent massivement à Goma. D'autres sont massés autour du camp des contingents indiens de la MONUC à Kiwanja, en 5 km des Rutshuru. Ceux qui restent sont regroupés dans l'enceinte de l'hôpital général des Rutshuru. De Goma, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa avec la signature hier de 2 accords de rapatriement. Ce rapatriement volontaire concerne des réfugiés congolais vivant au Soudan et des Soudanais vivant en RDC. C'est ce qui ressort de la tripartite HCR-RDC-Soudan, organisée du 29 au 30 janvier dernier au Grand Hôtel Kinshasa. Pour rappel, près de 6000 Congolais vivent au Soudan depuis plus de 40 ans. Et selon le HCR, 1500 réfugiés ont exprimé leur désir de retourner au pays. Le représentant du HCR en RDC, M. Euseb Untoku, interrogé par Mireille Boukassa.
Les villages d'origine, les villes d'origine sont éparpillées partout dans le pays. Et c'est de petits nombres de gens. Par exemple, 10 personnes vont à Kisangani, 15 personnes vont à Bafassende, etc. Donc, il n'y aura pas de concentration de rapatriés. Et c'est une opération qui va être très, très coûteuse si on ramène les gens par avion, etc. Mais je ne peux pas vous donner un chiffre immédiatement. Nous avons parlé du mois de mars dans le communiqué final. Et je pense que c'est tout à fait raisonnable. Parce qu'il faut d'abord que les techniciens se réunissent encore pour voir les modalités pratiques. Donc, ceux qui vont revenir, ils auront une assistante individuelle qui leur permettra de survivre pendant 3 à 6 mois en attendant de se prendre en charge eux-mêmes. Mais c'est tout cela que la réunion qui va discuter des modalités pratiques du rapatriement, c'est cette réunion qui va prendre cette décision.
Restons toujours à Kinshasa pour signaler l'ouverture hier de l'atelier sur l'élaboration du plan national de plaidoyer et de sensibilisation sur les violences sexuelles faites aux femmes, aux filles et aux enfants. Objectif, coordonner les plans soumis par Synergie provinciale pour la lutte contre les violences sexuelles. Cet atelier est financé par les Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP. Explication avec la coordinatrice du réseau Action Femmes et facilitateur de ces travaux, Madame Marie Moussi. Elle est au micro de Mimi Kalamba.
L'atelier que nous venons de commencer aujourd'hui porte sur l'élaboration du plan national de plaidoyer et de sensibilisation sur les violences sexuelles. Et c'est un atelier qui va prendre 3 jours. C'est suite à des ateliers provinciaux que nous avions organisés pour permettre aux provinces d'organiser leur plan provincial de plaidoyer. Et maintenant, nous sommes là pour élaborer le plan national de plaidoyer et de sensibilisation sur les violences sexuelles. Toutes les provinces sont là. Parce que dans chaque province de la République, il y a déjà des synergies de violences sexuelles qui fonctionnent. Et ce sont ces synergies qui avaient élaboré des plans provinciaux. Et nous nous sommes organisés pour que toutes ces synergies soient représentées ici à l'atelier national. Parce qu'au fait, cet atelier est organisé avec le financement de l'UNFPA, qui est l'agence leader dans ces programmes de l'initiative conjointe. Quand je vous dis l'initiative conjointe de lutte contre les violences sexuelles, c'est le système des Nations Unies, le gouvernement et aussi les ONG.
direction Sud-Kivu, où des localités de la plaine de la Ruzizi sont frappées par la sécheresse. Le déficit pluviométrique important constaté par l'inspection provinciale de l'agriculture au Sud-Kivu porte déjà ses fruits. 3 enfants seraient morts de malnutrition. 3 ménages à Kimuka sont retournés la semaine dernière au camp des réfugiés de Gasorwe Muinga au Burundi par crainte du manque de nourriture. Au total, plus de 40 familles se sont déjà réfugiées dans ce pays en l'espace de 2 mois parce que les champs ont séché, selon les habitants et les notabilités rencontrées à Ndunda. Fiston Goma a été sur place, suivez son reportage.
Des herbes desséchées, des enfants à ventre bédonnant, déambulant sous un soleil accablant dans un village presque vidé de ses habitants. Voilà la situation de Ndunda, Kimuka ou Nyango dans les groupements de Kabunambo. Selon un habitant trouvé sur place à Ndunda, 3 enfants sont déjà décédés de malnutrition. 65 familles ont déjà fui ces localités à cause du manque de pluie. À cela s'ajoutent les maladies qui attaquent les cultures et le pillage des champs par les hommes en armes. Le paysan qui avait quitté la zone en mai 2003 et qui sont rentrés en novembre de l'année passée affirme qu'ils ne réussissent pas à subsister depuis leur retour. Une mission conjointe a été effectuée dans le groupement de Kabunambo par l'Office des Nations Unies de la coordination humanitaire, la FAO et la section des affaires humanitaires de la Monique Ouvira il y a 2 semaines. Ils ont conclu que la malnutrition n'est pas sévère même si la famine menace la zone. Ils recommandent notamment que la population soit assistée en vivres pendant les 6 mois suivants la période culturelle qui débute en février. Fiston Ngoma Mayabala, Ouvira, Radio Cap.
Un mot à présent sur la plénière d'hier au Sénat. La Chambre haute du Parlement a finalement adopté la loi portant budget de l'État pour l'exercice 2006. Ce budget s'élève en équilibre entre les recettes et les dépenses à environ 1089 milliards de francs congolais. Par rapport au budget adopté à l'Assemblée nationale, il connaît une augmentation en recettes additionnelles estimée à environ 1 566 millions de francs congolais. Selon la commission spéciale Ecofin et socioculturelle du Sénat, ce supplément des fonds proviendra des recettes réalisé par l'OFIDA, la DGI et la DGRAD. Ce projet de loi devra être soumis à une commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour harmonisation des termes avant sa promulgation par le chef de l'État. Processus électoral à 2 mois des premières législatives congolaises. Les mots de scrutin continuent à diviser députés congolais et futurs électeurs. Dans les rues de Kinshasa, par exemple, la notion même de liste dite zébrée, fermée ou bloquée, et les listes qualifiées d'ouvertes constituent un casse-tête. Les Kinois ont du mal à maîtriser cette notion. Ils demandent un secours de la presse pour maîtriser cette question. Notez que ces listes devraient figurer dans la loi électorale actuellement en discussion au Palais du Peuple. Eugène Kabambi a recueilli les avis de quelques Kinois à ce sujet. Suivez.
À propos des listes zébrées ou ouvertes, bon, je n'ai pas vraiment une connaissance de ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire les listes zébrées ou ouvertes, je ne sais pas. On pourrait quand même nous expliquer comment est-ce qu'on fait avec des listes zébrées.
Les scrutins, des modes de scrutin, je n'ai pas une bonne connaissance de tout ça. En tout cas, j'ignore de tout du monde du scrutin.
Ah, je ne sais rien de ça. Il fallait que le non-politicien, vous de la presse, vous puissiez enseigner et expliquer bien au peuple.
Les listes zébrées, semble-t-il, c'est on nous donne des noms cachés, hein, on montre beaucoup plus les partis politiques et les gens ne sauront pas effectivement pour qui ils veulent voter. Et nous ne voulons pas de ça parce que nous souhaitons connaître tout cela que nous allons voter pour qui dirige notre pays. Nous souhaitons connaître individuellement tous les candidats.
Sachez par ailleurs que près de 1000 amendements ont été déposés par les députés la semaine dernière sur la table de la Commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Tous sont relatifs à la loi électorale en discussion. Cette loi contient près de 330 articles. La Commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement avait rejeté la semaine dernière cette notion de liste zébrée, bloquée ou fermée. Madame Marie Bapou, députée de la société civile et initiatrice de cette proposition, explique ces fameuses listes. Elle a été jointe par Eugène Cap. Bambi.
Les listes bloquées ont la spécificité de, une fois établies, de ne plus être modifiées par qui que ce soit, que ce soit par le parti politique ou le regroupement politique qui l'a établi, de sorte que si la femme est placée de façon paritaire avec l'homme et alternée, si on met un homme, une femme, un homme, une femme, cette façon permet aux hommes et aux femmes d'être représentés de façon paritaire, de façon égale et d'accéder ainsi aux mêmes chances pour que les électeurs puissent les voter.
Mais au niveau de la commission PAJ, ça a été rejeté.
Oui, ça a été rejeté au niveau de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Les partis politiques craignent la dictature de leur chef politique qui pourrait mettre en première position leurs copains, leurs copines, leurs cousines, amis et membres de famille, et d'une part, et d'autre part, qu'on pourrait peut-être faire passer des personnes non populaires, non connues dans le milieu, non compétentes et même des personnes étrangères.
En Équateur, c'est l'inquiétude de certains agents électoraux utilisés par la commission électorale indépendante pendant le référendum constitutionnel dans le district de la Chuapa. Ils craignent de ne pas être retenus par le bureau de liaison aux prochaines opérations électorales dans cette province. Ces agents accusent leur chef hiérarchique du bureau de liaison de leur exiger de l'argent ou des biens en nature pour être retenus. Témoignage du président d'un bureau de vote de Wini dans le territoire de Boende, Ishoma Nyamilenge.
Chez nous, au bureau de liaison de Boyende, précisément au secteur de Wini, se pose un problème. Ce n'est pas une certaine complaisance de ceux qui ont fait bien le travail, parce qu'il fallait que, je ne sais pas, une opération retour, après avoir reçu quelque chose du travail, il fallait restituer à certains individus. Certaines personnes n'avaient pas cette volonté-là de restituer. Maintenant, ils sont menacés d'être écartés. C'est moi personnellement qui vous parle. C'est arrivé quand mon chef de Wini, il dit que tous les présidents de Wini ne seront plus repris. Et je lui ai demandé la raison. Oh, parce que vous êtes ingrat, vous êtes ne nous avait pas restitué. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas la joie de voir que ceux qui peuvent faire un bon travail sont négligés pour être substitués par des gens parce qu'ils vont donner un peu de chèvre, un peu de truie ou de porc.
Fausse accusation, rétorque le chef de bureau de liaison de la CEI Boende. Pour Zachary Botouli, le recrutement de ces agents électoraux pour les prochains scrutins n'a pas encore commencé. Mais il est vrai, dit-il, que les agents utilisés au référendum ne seront pas tous retenus. On l'écoute.
Nous, on n'a pas encore commencé avec les travaux de la mise en place. Nous sommes dans la phase d'évaluation. Nous sommes en train de voir ce qui s'est passé dans chaque axe. Mais sinon, on va essayer un peu d'échanger parce qu'on a vu qu'il y avait même certains présidents, agents qui étaient recrutés, qui n'étaient pas à la hauteur de leur travail. Et ce n'est pas tout le monde qu'on va écarter. On va écarter ceux qui n'étaient pas à la hauteur du travail. Mais dès qu'on demande de les chèvres et qu'on sort, moi, je ne sais pas. Et comme on a commencé à payer des 280 $, des 300 $, alors c'est tout le monde qui se précipite dans nos bureaux pour chercher un emploi. Et comme on n'a pas encore commencé, nous, on ne saura pas dire qu'on nous apporte des chèvres ou des boucs. D'ailleurs, les chèvres et les boucs, ça coûte 2 000 ou 3 000. Nous, on peut acheter. Ces gens qu'on recrute n'ont pas de moyens. Comment est-ce qu'ils pouvaient nous payer de l'argent?
Dossier réalisé par Dominique Wolombi. Enseignement primaire et secondaire, une délégation des femmes enseignantes du Congo accuse certains responsables des écoles catholiques de percevoir la prime des enseignants donnée par les parents. Elles l'ont exprimé dans un mémorandum déposé hier lundi matin auprès du cardinal Frédéric Etcho, archevêque de Kinshasa. Ces femmes estiment que c'est une désobéissance à la décision de la Conférence épiscopale nationale du Congo prise l'année dernière, celle de supprimer ce système. Selon le secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, Jean-Kim Mbouya, le chancelier secrétaire de l'archidiocèse de Kinshasa, l'abbé Liber Pongo, a refusé de recevoir ce mémo qui a été déposé devant sa porte. Pour Jean Kimbouya, c'est l'abbé Biko, coordonnateur diocésain des écoles catholiques, qui soutient cette prime de motivation aux enseignants. Jean Kimbouya est joint au téléphone par Alain Irung.
C'est par rapport au non-respect des clauses du communiqué de presse de la Conférence nationale épiscopale du Congo du 11 janvier 2006. C'est la suppression pure et simple de la prise en charge des enseignants par les parents. Avec le coordonnateur Biko, il ne défend pas les enseignants, il ne défend pas les parents. C'est un problème d'intérêt, c'est du business. C'est-à-dire qu'ils doivent cesser de faire les commerces, n'est-ce pas, dans les systèmes éducatifs, parce que l'éducation est un service public. C'est de lui qu'il s'agit. Il désobéit à la hiérarchie de l'Église catholique. Nous le disons fermement. Et pourtant, dans les autres diocèses, il y a des coordonnateurs qui obéissent, n'est-ce pas, à la décision de cet organe qui est souverain au niveau de l'Église catholique. Nous parlons de la Bébico. Les parents sont chômeurs ou s'ils sont payés, ils sont fonctionnaires, ils n'ont presque pas de salaire. Donc vraiment, nous, cette attitude qui n'est pas vraiment en symbiose avec la mission de l'Église qui est sociale et pastorale.
Contacté par Radio Okapi, l'abbé Biko n'a pas souhaité s'exprimer. Pour sa part, l'abbé Liber Pongo a déclaré à travers un communiqué de presse publié hier lundi matin vers 11h20, un petit groupe de personnes se réclamant du CIECO a investi la résidence officielle du cardinal archevêque de Kinshasa dans une grande agitation et de bruit pour lui transmettre le mémorandum des femmes enseignantes, dit-il. Il ajoute que la résidence officielle de l'archevêque de Kinshasa n'est pas et ne saurait être un espace ludique ni une succursale de l'autorité compétente. enseignante chargée de répondre de ses obligations envers les revendications des enseignants. Le dit communiqué rappelle la justesse de la décision de la SENCO relative à la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents. Mais le petit groupe des enseignants descendu à la résidence du cardinal s'est trompé de cible, a conclu le chancelier, secrétaire de l'archidiocèse de Kinshasa, l'abbé Liber Pongo.